las conferencias de Radio Languedoc. Per lo centenario de la despartida de Frédéric Mistral, en 2014, lo Pen Club de Languedoc convidet universitaris, cercaires, apasionats e curiosos a una jornada de reflexión sur l'obra e l'homme Frédéric Mistral. Vos proposant d'escutar la primera partida de la contribución de Philippe Martel de l'Universitat Pau Valéry de Montpellier a propos de la representación de Frédéric Mistral en pausa l'interrogación d'un joc de Miral de Formaire cap al mestre de Mayana. Aquella conferencia fue registrada el 14 de junio de 2014 a la Abadía de Magalone, proche de Montpellier.
Bon, avec le, nous et nous plaisait, et aurait nous plaisait un caramel et l'escoutat, d'abord, et maintenant, c'est quasiment le seul historien, vertadièrement, historien professionnel, universitaire, et spécialisé dans laquelle histoire. Donc, c'est précieux de l'escoutat, parce que toutes les cinq historiens amateurs, c'est fort important pour nous d'expliquer tout à quel passat, et de l'oubeir clairement, et de l'oubeir que les garouilles de ce qu'il y a à gueux ne sont pas tant importantes ce qu'il y a et qu'il faut tout péter ça. Et je veux dire que c'est impressionnant pour le dernier livre de Philippe Martel, qui est dans sa thèse, où il nous explique ce que, à quel renommée de Mistral et à quel agache qui rapporte à Suzelle, a fini par influencer tout l'image de notre respédite à l'étranger. Et alors, parleras en occitan ou en français?
Je crois que vous parlez en français. Oui. Je dire,
c'est pas. Est-ce que c'est l'ocuménisme.
Une main d'occitan, mais là où un peu étrange. Tous les occitans sont étranges, mais le mieux est un camail étrange. Bien, donc, bon, bonjour à tous d'abord. Et donc, effectivement, le titre de ce que je vais raconter, c'est Le miroir déformant. Et effectivement, le miroir, c'est intéressant, hein, ça permet d'avoir un petit peu un reflet de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit peut-être plus difficilement. Mais en même temps, de temps en temps, ce miroir, il peut renvoyer une image fidèle. Et dans ce cas-là, il est une aide, il est une valorisation de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Il peut aussi, ça arrive, être un miroir déformant. Et déformant tout simplement parce que des mains criminelles, si j'ose dire, se sont arrangées pour le gondoler un petit peu, de façon à lui faire envoyer une image curieuse, une image assez curieuse. Et dans la rubrique « Les images curieuses », on verra que sur Frédéric Mistral, il a été pas mal servi. Alors en gros, première chose, un paradoxe. Et là, je reprends un petit peu dans le prolongement de ce que Jean-Marc vient de nous expliquer. C'est clair que Mistral a, dans l'opinion française et internationale de son vivant, et un peu après, une image dont on n'a absolument aucune idée aujourd'hui dans le champ de la littérature doc. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver des articles sur un écrivain occitan dans la presse nationale. On a parlé un petit peu de Max Rouquette quand il est mort. On a parlé un petit peu de Bernard Mancier quand il est mort. Puis bon, après, quand il était mort, on n'en parlait plus. Ça fait un énorme contraste avec ce qui paraît dans la presse nationale et la presse régionale au XIXe siècle, autour de Mistral et du Félibrige. Là, c'est des centaines d'articles que l'on a, avec donc un écho pour la revendication portée par Frédéric Mistral assez considérable. Alors, ça, c'est la première branche du paradoxe. Cet auteur venu de Mayanne, Bouches-du-Rhône, 1500 habitants à peu près, a donc un statut national. Et il va le garder jusqu'à sa mort. À chaque fois que Mistral passe à Paris, et il y va quand même assez régulièrement, hein, 8 ou 9 fois au total, la presse parisienne signale Monsieur Frédéric Mistral, le célèbre poète provençal, est dans nos murs. Et en général, ça provoque toujours un certain nombre de réactions. Donc, Mistral est connu. Il est reconnu, mais parfois pour de mauvaises raisons, et parfois tout à fait de travers. Et donc, ce qu'il nous faut voir, ce que je vais essayer de voir avec vous maintenant, c'est justement cette contradiction qui permet à la fois d'installer la revendication pour la langue doc à un niveau qu'on n'aurait jamais eu sans cela, mais en même temps, peut-être que ça oriente de façon assez perverse le regard qui est porté dessus par les élites. Alors, première chose à dire, Je parle de Paris. Ça ne veut pas dire que je considère que ce qui s'écrit à Arles, à Montpellier, est sans intérêt, mais quoique. Parce qu'en général, ce qui s'écrit à Marseille et à Montpellier à l'époque, ben, c'est tout simplement le copier-coller de ce qui s'écrit à Paris. Et c'est donc à Paris qu'il faut aller pour voir exactement ce qu'il faut penser de Mistral quand on est un Français du XIXe siècle. Et du même coup, et là, je reprends ce que je croise ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, du même coup, c'est via Paris que le renom international de Mistral peut croître et embellir, comme cela a été montré, avec peut-être d'ailleurs moins d'arrière-pensée et parfois plus de justesse dans le regard. Alors pourquoi Paris ? Ben, ça, c'est le résultat d'un calcul stratégique de Frédéric Mistral lui-même. Frédéric Mistral lui-même a compris très très vite que c'est à Paris que les choses se passaient. Il n'a pas compris tout seul. Il a compris parce qu'il a fait des rencontres un petit peu providentielles. Par exemple, un garçon qui s'appelle Adolphe Dumas, qui est un voisin, il est de Basse-Provence aussi. Il est monté à Paris, il a essayé de faire une carrière, ça n'a pas marché des masses. Alors, il faut dire qu'il y a mis du sien. Il avait fait, par exemple, une tragédie dans laquelle il y avait un vers « Et j'entre dans la vie comme un vieillard en sort ». Et bien entendu, le public parisien qui a le sens du calembour a entendu « Et j'entre dans la vie comme un vieillard en sort ». Voilà. Donc, et ça vous donne une tragédie comique. Bon. Alors, donc, fin de la carrière dramaturgique d'Adolphe Dumas. Mais Adolphe Dumas a malgré tout le mérite d'avoir un carnet d'adresses extrêmement fourni dans les milieux littéraires parisiens parce qu'il a toujours fréquenté les grands romantiques qui fait partie de la bande depuis Hernani au moins. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le personnage qui va lui permettre de rencontrer un certain nombre de gens, dont le fameux Alphonse de Lamartine et son 40e entretien. Alors Mistral, pourquoi monte-t-il à Paris une fois que Adolphe Dumas lui explique que c'est une bonne idée ? Il l'a expliqué. Il l'a expliqué de façon extrêmement crue, on va dire ça comme ça. Hein. Il envoie par exemple une lettre à un critique, prof en Sorbonne, futur académicien, qui s'appelle Saint-René Taillandier, et qui était le premier qui avait parlé de la Renaissance d'Oc et du proto-Félibrige dès 1852, dès que Romani avait publié une petite anthologie où il y avait déjà Mistral. Et Saint-René Taillandier avait repéré dans toute la bande que Mistral était certainement le meilleur, il le disait. Et donc, Mistral écrit à Saint-René Taillandier en 59 en lui expliquant pourquoi il est monté à Paris et pourquoi il a mis une traduction en face de son texte provençal, parce que ça, Saint-René Taillandier trouvait que c'était une mauvaise idée. « Je n'ai voulu conquérir l'attention des artistes et le succès de Paris que pour arriver plus vite à la vulgarisation de mon poème dans le peuple de Provence. Car, je suis obligé de l'avouer, le peuple, même celui de Provence, est toujours comme le troupeau de Panurge. » À son collègue Crousillat, un des premiers félibres, il l'ajoute « C'est à Paris même qu'il faut aller planter le drapeau félibrien. » Et il a très très bien compris une réalité extrêmement simple, qui est d'ailleurs toujours valable aujourd'hui, le marché littéraire français s'organise à Paris dès le XVIe siècle. Dès le XVIe siècle, 60% de ce qui s'imprime en France s'imprime à Paris. C'est terminé. Au XIXe siècle, l'espace occitan, c'est-à-dire un tiers de la superficie totale du pays et un quart de la population, c'est 11% seulement de ce qui s'imprime en France. Et une partie de ça s'imprime pour le service des leaders parisiens. C'est à Paris qu'il faut être. C'est pas à Avignon. Il se passe rien à Avignon, excusez-moi. Et donc... je disais qu'il était cru, l'affreux Mistral, il est terrible. Il envoie toujours dans des lettres à ses amis, il dit des choses effrayantes. Et voilà ce qu'il dit, par exemple, dans une lettre à un autre collègue. « La province sera toujours ridicule. La province. Vous voyez, alors ça c'est Adolphe Dumas, justement. Vous voyez, grâce à vous, l'accueil superbe que Paris prépare à Mireille. Il semble que la province, et surtout la Provence, dont mon poème est la glorification, devrait être la première à applaudir, à faire du bruit, ne serait-ce que pour encourager l'art local, la poésie du lieu, la décentralisation. Eh bien, savez-vous ce qui se passe ? Les journaux, Nostit Journalé, Marseille, Nîmes, Avignon, Montpellier se taisent. Ou si quelques-uns annoncent mon poème, c'est avec précaution, timidement, comme si on avait peur de se compromettre. On attend le sentiment de Paris. Si Paris se tait, mon livre serait-il un chef-d'œuvre ? Nul n'osera le dire et beaucoup me jetteront la pierre. Il faut donc que Paris parle et parle haut. Et à Roumieux, il écrit aussi « Je fais l'ibrige avec tout ce qu'il y a de bon et de meilleur dans notre capitale, car notre capitale n'est pas Arles ni Marseille. Ces deux villes abattardies n'ont pas seulement dit bonjour à la Tsato Nodoma di Falabreg. Notre capitale, c'est Paris. » Alors c'est effrayant, hein, ça, c'est effrayant quand on y pense, parce que ça veut dire que Mistral a très très bien compris comment fonctionne l'opinion en France. C'est Paris qui donne le lait. qui lance le lait, comme on dit à la pétanque. Et effectivement, c'est très exactement ça qui va se passer. Bon, il y a quelques faits libres, copains qui publient des petits articles dans la presse provençale, mais c'est des copains. Mais pour que la vraie critique marseillaise, par exemple, s'engage, elle attend que Lamartine ait parlé, que tous les autres aient parlé, les 53 articles dont tu parles, et à partir de ce moment-là, ouf! Il y a le tampon de l'Académie, donc on peut y aller, on peut trouver que Mistral, finalement, c'est pas si mal que ça. Alors donc, de la part de Mistral, c'est quelque chose de très conscient. C'est à Paris qu'il faut aller. Et une fois qu'on aura eu Paris, ça pourra percoler et redescendre dans le sud. Et ces gros pecnos de provinciaux comprendront enfin ce qui se passe. Alors, c'est effectivement ce qui se passe. C'est effectivement ce qui se passe. Paris parle très bien, très fort. Et ça installe donc Mistral de façon définitive dans le cercle des auteurs dont on parle. Hein, 53 articles, bon, tu l'as dit, c'est pas mal. En général, tous bons. Il y en a deux qui sont pas... Nous disons la même chose, ça tombe bien. Donc c'est quelque chose d'important. Et régulièrement, par la suite, ça conditionne quelque chose de très simple. D'une part, des rééditions tout à fait régulières et de Mireille. Bon, dès l'été, la première édition, c'est 3000 exemplaires à peu près, c'est plié en quelques mois. Et ensuite, il y a une nouvelle édition à Paris, Charpentier, éditeur populaire à l'époque, donc avec des milliers d'exemplaires. Et régulièrement, 62, 64, Mireille sera rééditée. Et les œuvres postérieures de Mistral, elles auront toujours une première édition, souvent en tout cas, une première édition à Avignon, Roumanie, et ensuite... c'est repris à Paris par de grands éditeurs, Charpentier, Le Maire, Hachette, etc. Donc, ça installe Mistral dans un statut rarissime dans le champ de l'écriture doc depuis le XVIe siècle. Un auteur a relativement succès. J'aimerais avoir un jour accès au carnet de comptes de Mistral, parce que je suis persuadé qu'à côté des ventes de chou-fleurs qui constituaient ses rentes ordinaires, ses droits d'auteur et ses prix académiques devaient constituer une partie importante de ses revenus. Alors donc, voilà donc Mistral installé, en quelque sorte, dans ce rôle d'écrivain reconnu à Paris. Problème. Il est reconnu parfois de façon un petit peu tordue. Et ça, c'est vrai dès 1859. Je reviendrai in fine sur Lamartine, parce que je crois que c'est Lamartine qui constitue l'aiguillage à la fois positif et négatif dans cette histoire. Alors voilà par exemple ce que dit un critique qui s'appelle Louis Ratisbonne dans le Journal des débats. Mistral, voilà un nom qui sent sa provenance, ou plutôt sa Provence, et pardonnons au mauvais plaisant qui va dire qu'un poète portant le nom de Mistral ne saurait manquer de souffle. Elle est bonne. Son poème n'est pas écloué. Alors là, on rigole, mais on va pas rigoler longtemps, parce que voilà comment ça continue. Son poème n'est pas éclos, fleur atrophiée et maladive, entre les pavés de nos rues, au milieu des miasmes de la cité. Il l'a porté 7 ans dans les champs de son humble village des Bouches-du-Rhône. C'est un poème sain et robuste, et si les pâtres peuvent le comprendre, il ne les corrompra pas. Ah, comme il m'a paru contrasté étrangement avec les produits échauffés, viciés et malsains venus dans les serres chaudes de notre littérature à la mode. Tel est ce poème, alors ça c'est la banderie finale, tel est ce poème qui n'a vraiment qu'un défaut sensible, c'est de n'être pas un poème français. Alors, donc, Mistral c'est très bien, mais pourquoi c'est très bien ? Ben c'est très bien parce que bon, vous avez compris les allusions, hein. Il s'est pas fatigué le gars. Ça permet de cogner sur un autre auteur du temps qui est Charles Baudelaire et Les fleurs du mal, fleurs atrophiées et maladives, voilà, de 1857, qui effectivement lui ont valu un procès en correctionnel et la haine d'une bonne partie de la critique bien pensante de l'époque. Et c'est comme ça que Mistral va être présenté comme l'auteur d'un poème attendrissant. Qui fait pleurer. Mais un poème utile aux mœurs. Et c'est comme ça qu'il va avoir son premier prix académique en 1861. Alors c'est amusant, hein. Un poème utile aux mœurs qui célèbre un petit peu les vertus familiales. Les gens sont complètement passés à côté de la réalité du poème de Mistral, qui n'est pas du tout un poème gentil. Mireille, c'est pas un poème gentil. C'est une tragédie, attendez. Et c'est une tragédie de la violence. c'est de la violence des passions adolescentes, d'Inci Quinzan et Romireille, etc. C'est le problème de la violence des conventions sociales, c'est la violence des rapports entre jeunes mâles, puisque quand même Vincennes il se prend un coup de trident dans la poitrine par un gardien. Et c'est le poème de la violence du climat. Alors il y a une vertu dans le soleil, bah oui, il y a une vertu dans le soleil, c'est lui qui tue l'héroïque, pardon, excusez-moi. Donc là, une bonne partie de la critique est totalement passée à côté de ça, et ça a orienté la réception de Mistral, et au-delà de la littérature doc, dans un sens bien précis, c'est exotique et pittoresque. Alors voilà, un peu de Lamartine pour la route, tiens. Son poème, c'est lui, c'est son pays, c'est la Provence aride et rocheuse, c'est le Rhône jaune, c'est la Durance bleue, c'est cette plaine basse, moitié caillou, moitié fange, qui surmonte à peine de quelques pousses de glaise et de quelques arbres aquatiques, les sept embouchures marécageuses par lesquelles le Rhône, frère du Danube, serpente trouble et silencieux vers la mer comme un reptile dont les écailles se sont recouvertes de boue en traversant un marais. Alors voilà, donc, venez en Provence, justement le train commence à permettre d'y aller, c'est sympa, il y a la Camargue, il y a des taureaux, il y a des trucs comme ça. Donc Mistral, il commence à acquérir dès ce moment-là un statut qui va garder assez longtemps, celui, j'allais dire, de l'auteur d'un guide bleu versifié des beautés de la Provence, pour reprendre le titre d'un bouquin de Jean-Louis Vaudoyer de l'Académie française dans les années 20. C'est pas ça, Mistral, excusez-moi. Mistral, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est comme ça qu'on le voit. Et deuxième chose, ben, on le voit comme un poète moral et un poète classique qui défend les vraies valeurs littéraires face aux horribles novateurs qui, par la suite, développent des poésies que personne ne lit, Ragnagna, Mallarmé, Rimbaud, tout ça. Alors, dans le rôle des gentils poètes, il y a une gradation, hein. Dans les années 60, les mauvais, c'est les parnassiens. Et quand les symbolistes arrivent, on va opposer Mistral comme finalement tout à fait potable, évoquant les parnassiens, contre les méchants symbolistes. Et s'il avait vécu au temps du surréalisme, on aurait pu aussi l'opposer aux surréalistes. Alors, bien entendu, ça passe complètement à côté, là aussi, du fait que Mistral, c'est un poète, et un poète maître en poésie, c'est certainement un des poètes du 19e siècle en France, avec la plus grande variété d'inventions prosodiques. Et ça, personne ne le dit. Voilà. Alors donc, ça, c'est une première chose. Le seul... Alors, si, il y a un gentil dans cette histoire. Il faut toujours qu'il y ait un gentil. La plupart disent à peu près la même chose. Hein. Bon, Taxil Delort, qui est un avignonnais, d'ailleurs. Vous avez beau dire, poète Mistral, ce sera un beau jour que celui où les 20 millions d'individus qui parlent les divers patois de notre commune patrie s'exprimeront en français. Ce jour-là, il y aura 20 millions d'hommes qui sauront lire en France et la cause du progrès et de la liberté sera définitivement gagnée. On a vérifié depuis. Condamner le peuple au patois, c'est le condamner à l'ignorance. Il serait fâcheux qu'un poète comme Frédéric Mistral fût perdu pour la France. En d'autres termes, mon camarade, si tu veux continuer, bah, tu passes au français parce que c'est quand même méchant le mouillu. Une seule exception, pour confirmer la règle, Louis Jourdan, dans Le Causeur, c'est une petite revue littéraire de l'époque. « Quel dommage, disait-on devant nous, que ce poème soit en vers provençaux. » Quel dommage aussi qu'Homère, Virgile, Le Dante, Pétrarque, Shakespeare, Milton, Camoens n'aient pas eu la délicate attention d'écrire en vers français leurs poèmes immortels. Explication de texte. Qui c'est Louis Jourdan? C'est un Toulonnais, écrivain doc, dès 1848, et qui a publié quelques poèmes, d'ailleurs pas très bons, dans l'Armana Provençale dans les années 60. Alors donc, il faut véritablement avoir, en quelque sorte, un indigène installé à Paris pour corriger un peu le tir. Alors le problème, c'est qu'après, ça va continuer. Et on va donc avoir tout un tas d'articles qui vont paraître dans la presse parisienne, favorisés par un certain nombre de facteurs, là aussi assez ambigus. Il y a les voyages de Mistral. Et je vous ai dit, à chaque fois que Mistral est à Paris... c'est la fête. Il y reste plusieurs semaines. En général, il y est pour le service après-vente d'un de ses nouveaux livres. Il a très très bien compris comment ça marche. Hein. Alors que Aubanel, pour prendre un exemple au hasard, n'a rien compris. Aubanel, la myogranne d'André Dubert tombe dans un grand silence glacé parce qu'il n'a pas fait le travail. Il n'est pas monté à Paris avec son bouquin en disant « Tenez, voilà. ». La légende dit que Mistral était monté avec une caisse de Châteauneuf-du-Pape. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Il faut y penser. Donc, voilà. Alors, donc, comme Mistral y est, c'est bien. Ça permet un petit peu aux choses de s'y circuler. Alors, je cherche un texte extraordinaire d'un garçon extraordinaire, lui aussi, qui est... comment il s'appelle ? C'est Blois, Léon Blois. grand polémiste catholique de la fin du XIXe siècle. Dans Le Chat Noir, c'est joli comme revue Le Chat Noir, 1884, la présence à Paris de Frédéric Mistral a ranimé pour une heure le petit cadavre de la poésie contemporaine qui puait depuis quelque temps sur l'étal vermineux des marchands de littérature. Habituellement traîné par l'exigence du sale métier de critique dans le fétide marécage de la littérature parisienne, je me suis assis et reposé là comme dans un jardin de délices, comme dans un paradis. Mais combien il est difficile d'en parler aux mangeurs de vomissures. Je dois me souvenir que je parle ici devant la sacrée congrégation des parfaits pleutres en littérature. Et je demande humblement pardon au dernier des enfants d'Homère d'avoir si longtemps compromis son glorieux nom à lui, en le faisant sonner aux oreilles mille fois prostituées de l'épouvantable clic de mes lecteurs. Ça c'est du Léon-Blois. Alors ça, c'est en 84. Donc là, il aime Mistral. L'année suivante, il fait toujours de la polémique, mais cette fois-ci, c'est plus contre ses lecteurs, c'est contre Clovis Hugues, poète provençal à 16 heures, mais surtout député socialiste à la Chambre, qui était mêlé à une affaire de révolvérisation d'un journaliste. C'est des choses qui se faisaient à l'époque. Et Léon Blois n'aime pas du tout Clovis Hugues pour les raisons que vous pouvez deviner. Et à ce moment-là, il reparle de Mistral. Mais il le traite de vacher troubadour, qui aurait pu faire une très belle carrière chez lui, mais qui a préféré venir à Paris faire le ramasseur de crottins de journalistes sur le boulevard Montmartre. Ah, morale de l'histoire. Mistral, il est multiservice, finalement. Il peut servir à taper sur l'avant-garde littéraire parisienne. Il peut aussi servir à taper sur les provinciaux, sur les provençaux, sur Mistral lui-même. Et en gros, la venue de Mistral à Paris, ça donne toujours lieu à ce genre d'articles qui peuvent être soit louangeurs, soit moyennement positifs. Alors, quelques exemples, et vous allez voir que c'est, là encore, gratiné. Alors, voilà, donc, voici. Alors, là, on est dès le 1864, un des premiers passages de Mistral à Paris pour Gounod, la Mireille de Gounod. Voici l'ami Mistral, le vrai Mistral, Frédéric. Il est allé le voir à Mayenne. Hein. Il est au milieu de ses vendangeurs. Les travaux des champs sont familiers à cet enfant de Virgile. La nature n'a plus de secret pour lui. Il sait le refuge du rossignol. Aussi, quel visage épanoui que celui du poète de la Provence. Quel air de franchise, quel geste cordial, quelle candeur enfantine sur cette physionomie sereine et quelle fraîcheur d'impression dans cette âme simple. C'est l'ouravi de la crêpe, hein. Alors, un autre, tiens, 20 ans plus tard, le bon et grand Mistral, le poète de Mirillot, de Nerteau, de Calendao, est en ce moment à Paris. Il est fêté ici, comme il l'est toutes les fois que ce sage, satisfait de la souveraineté littéraire qu'il exerce sur le Midi, vivant loin de nos luttes irritantes et de nos querelles, dans son domaine de Mayenne, en face de ses chères Alpilles, fait, par hasard, le voyage de la capitale. Franc, cordial, débordant de vie, causeur savoureux et charmant, avec sa simple bonhomie, il inspire plus que de la sympathie, de l'affection. Il est à la fois olympien et brave homme, portant comme une couronne son large chapeau de feutre, qui cadre bien avec son visage souriant, que coupent les moustaches et la longue barbiche grise. Alors un autre, tiens, au même moment, pour le même voyage, pour le lancement de Nerteau. Le grand poète du pays de Provence, Frédéric Mistral, est dans nos murs depuis un mois. Il y a bien 15 ans qu'il n'était venu en France. Il vit modestement, là-bas, au pays du soleil, loin des tracas vulgaires de la vie d'artiste en France, c'est-à-dire à Paris. Ce n'est pas un de ces malingres et raboteux méridionaux, comme il y en a tant, qui jargonnent sur le boulevard et dont on perçoit la cerne à 50 mètres. Alors ça, c'est pour le méridional monté à Paris et qui vient donc faire pipi dans les bottes des gens installés à Paris. On est à un moment où il y a plein de jeunes diplômés de province qui montent à Paris pour faire carrière. Et bing, ils se font allumer, bien entendu. Alors Mistral, il a un mérite parfait, il reste chez lui. Bon, de temps en temps, il passe à Paris par hasard, mais globalement, il reste dans la campagne, c'est-à-dire, bon. Alors Mistral est vigoureux, voilà sa description. La tête est d'une grande finesse, alors, tu l'as dit, il est très beau, hein, c'est un beau mec. Et les lignes du visage sont belles, il a l'œil clair, vif, ses cheveux grisonnants sont rejetés en arrière, et il porte généralement un vaste chapeau mou à larges ailes. Alors un autre, toujours au même moment, hein, Frédéric, alors, il se copie bien, hein, là, le copier-coller, c'est pas une invention actuelle. Hein. Frédéric Mistral est un homme d'environ 50 ans, moustache et barbiche grise, avec la chevelure longue, le teint frais, le sourire juvénile, la dent saine et le regard clair. J'ai senti rarement poignée de mains plus franches. Il y a aussi une candeur cordiale dans ce provençal robuste. Et c'est exquis, cette évocation soudaine de la libre campagne, de la poésie sans limite, dans un salon raffiné, spirituel et mondain de Paris. C'est l'éléphant qui rentre dans le magasin de porcelaine, quand même un peu. On ne voit plus les bougies, les lustres. Il semble que ce soit des étoiles qui pâlissent là-haut en voyant Magali, il a lu. La douce voix du poète, c'est une aubade de pâtre. Jules Clarity, journaliste périgourdin d'ailleurs, académicien français par la suite, et directeur de la Comédie française. Donc, un type important quand même. Alors, encore une, tiens, les Goncourt, journal des Goncourt, toujours en 84. Voilà Mistral, un beau front, des yeux limpides d'enfant, quelque chose de bon, de souriant, de calme, fait par une vie de plein air méridional, du bon vin, du Châteauneuf, et l'enfantement doux de chants et de portraits troubadouresques. Un beau et solide paysan qui aurait clité sa blouse. Alors ça, c'est les premières notations sur Mistral. Et puis il se rencontre chez Daudet, hein, dans la résidence de campagne de Daudet. Puis à un moment, quand même, Goncourt, il commence à trouver que Mistral, il parle beaucoup, avec un accent pas possible. Qu'on lui demande de lire ses poèmes, alors il met ses lunettes pour lire ses poèmes. Alors ça, Goncourt, il supporte pas. Et là, le ton change. Mais si on reprend tout ça, puis il y en a des camions entiers dans ce même style, on voit bien l'image de Mistral qui est donnée. C'est celle, finalement, de, ben, je disais tout à l'heure, du ravi de la crèche, finalement. C'est-à-dire de celui qui, là encore, peut servir de contrepoint à l'image de l'homme de lettres traditionnel qui vit dans une mansarde sous les toits de Paris, dans la bohème, qui écrit des trucs pas possibles. Là, Mistral, au moins, c'est du solide, c'est du paysan. Avec donc toute l'ambivalence du regard de l'époque sur le paysan. Le paysan, c'est à la fois l'homme de bon sens qui est les pieds solidement enracinés dans la terre, et puis en même temps, ben, c'est le plouc qu'on n'invite pas dans les salons, quoi. Et on a des témoignages très précis sur Mistral dans les salons, de gens qui disent que oui, bon, ce type qui débarque avec son grand chapeau, son costume gris, tout ça, il n'est pas... Avec les jolies dames et les beaux messieurs, c'est pas tout à fait ça. Et donc, ça nous dit quelque chose d'assez précis sur une distance à l'égard de Mistral, qui est une distance d'ordre social. On y reviendra.
Las conferencias de Radio Languedoc.
Alors, deuxième chose qui favorise un petit peu l'accueil de Mistral et de la revendication d'Oc à Paris, c'est l'existence d'un félibrige parisien et d'une association de méridionaux de Paris, qui se met en place très tôt, hein, dès 1876, avec des faits libres. Je pense à Louis-Xavier de Ricard, à Maurice Faure, futur député, sénateur, RATSOC, radical socialiste de la Drôme. Ils fondent une Cigale, la Cigale, c'est une association d'originaires du Midi, de tous les départements du Midi, alors qu'il existe déjà des associations départementales. Là, on essaye de rejoindre toutes les zones du Midi, ce qui est déjà le signe d'un projet. On n'est plus simplement les originaires de tel ou tel département, on est des méridionaux à Paris et on se tient les coudes. En 79, on fonde un félibrige à Paris, avec 50 membres. Et ces félibres et ces cigaliers qui sont des gens très différents des félibres de base. Le félibre de base, pour résumer, c'est un fonctionnaire, c'est un membre des professions libérales, un pharmacien, un notaire, un avocat. Le plus souvent, pour la moitié, quand on arrive à reconstituer leur background, c'est des gens d'origine populaire qui ont fait des études, qui sont plus ou moins longues, et qui entrent à la ville et dans le tertiaire. C'est ça. Et donc, c'est les classes moyennes, hein, ce que Gambetta appelait les nouvelles couches sociales par rapport à la bourgeoisie et à l'aristocratie traditionnelle. Et donc, ça, c'est le fait libre en bas. À Paris, c'est des faits libres qui ont réussi particulièrement une carrière parisienne, justement. Ce sont soit des hommes politiques, hein, je vous dis, Maurice Faure, député et sénateur radical socialiste, haut dignitaire de la franc-maçonnerie, bon, Dromois, enfin, bon. Tout ça, c'est le haut du panier. Jules Clarity, Cigalier, hein, directeur de la Comédie française et de l'Académie française. C'est des gens comme ça. Hommes politiques, journalistes, littérateurs, ben Alphonse Daudet, Clovis Hugues, sa femme qui est sculptrice, des grands sculpteurs comme Injalbert, etc. Hein, c'est le dessus du panier de l'émigration occitane à Paris. Et donc, c'est là que vous croisez avec la lecture que je faisais tout à l'heure sur les malingres et raboteux dont on sent la sent à 50 mètres sur le boulevard. Ceux-là, ils sont à la fois connus, parce que c'est des collègues, c'est des gens qui font partie du petit monde qu'un intellectuel français normalement constitué rencontre tout le temps au bistrot, au salon, etc. Mais en même temps, c'est un concurrent. Et c'est un type qui débarque avec des espadrilles et une valise en carton de la gare d'Austerlitz ou de la gare de Lyon dans un milieu qui est déjà préstructuré par d'autres et qui est donc à la fois dedans et dehors. Et d'une certaine manière, ça permet à la fois une certaine visibilité pour le Félibrige. Et là, c'est pas compliqué. À chaque fois que les Félibres vont à Sceaux, les Félibres de Paris organisent, ils en ont fait une il y a 15 jours, hein, une Félibrée à Sceaux, en banlieue parisienne, toute la presse parisienne y vient. Parce qu'il y a toujours des gens importants qui font des discours. Et quand ils font un grand voyage dans le sud, ou dans le sud-est ou sud-ouest, toute la presse parisienne, en général c'est pendant l'été, on ne sait pas trop de quoi parler dans le journal, toute la presse parisienne suit, gratos, pour faire des articles sur le voyage des Félibres et des Cigaliers. Ils sont donc, si vous voulez, à la fois je reviens à mon histoire de miroir. Ils permettent d'avoir une image à Paris du midi, donc on en parle, on écrit dessus, mais on écrit souvent avec une certaine distance. Alors voilà par exemple ce que dit un garçon qui s'appelle Van der Hem dans la Revue Bleue sur la récitation par les Félibres de Paris de leurs œuvres complètes. La poésie provençale miaule. Long, boum, boum, bad, vado, yao, vao, our, zong, long, trône de l'air du trône des dieux. Le diseur rugit, brame, hennit, barrit. On écoute, effaré, avec une vague envie de se jeter sous la table, de se fourrer sous les banquettes, ou simplement d'ouvrir son parapluie. Oui, on parle des Félibres. Et on parle de Mistral, mais vous voyez qu'on en parle d'une façon qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce qu'il est. Et donc, il y a de la condescendance. Vous avez vu que dans le regard candide et le regard enfantin de Mistral, excusez-moi, Mistral, l'enfance, Jean-Yves Casanova en parlerait mieux que moi, il n'est pas plus candide que vous et moi, Mistral. Non, puisque c'est un paysan qui monte à Paris, il faut qu'il soit candide, naïf. Oui, bon, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez condescendant ou alors d'assez malveillant. Alors donc, ça veut dire qu'on parle beaucoup de Mistral, en général de façon extrêmement mécanique, avec des exercices obligés. Le voyage à Mayenne. Régulièrement, il y a un type qui descend par le train, il s'arrête à Gravesson, ensuite il prend la calèche, il veut voir Mistral. Mistral, il est dans le Baedeker. Hein. Il n'y a pas encore de quart de touristes japonais qui s'arrêtent à Mayenne, mais on pourrait avoir. Il y a déjà des touristes qui vont voir Mistral et qui l'empêchent donc de travailler, soit dit en passant. Hein. Bon. Mais bon. Et donc, un marronnier de la presse parisienne à l'époque, c'est le voyage à Mayenne où on voit Mistral avec son chien, sa servante, sa femme. Bon. Etc. Mistral à l'Académie. Régulièrement, on lance dans la presse l'idée que, tiens, ce serait pas mal que Mistral entre à l'Académie. Mistral fait toujours la même réponse. Je vois pas ce que j'irais faire dans un machin qui est consacré à la défense de la langue française, alors que moi, je me consacre à la défense d'une autre langue. Donc là-dessus, il est clair. Au moment de Calendau, en 67, il y croit encore. Hein. Il pense effectivement que... si Calendau avait du succès, ce qui ne sera pas le cas, ça pourrait lui permettre d'entrer à l'Académie française et donc de faire entrer la langue d'oc à l'Académie française. Puis, quand il comprend que ça ne marche pas, après c'est terminé. Mais régulièrement, il y a de bonnes âmes qui vont expliquer que ce serait pas mal que Mistral entre à l'Académie. Alors pourquoi ce serait pas mal que Mistral entre à l'Académie? Je dirais c'est sous la rubrique TSZ. Tout sur, sauf Zola. Parce que Zola a passé sa vie sans y réussir, à vouloir entrer à l'Académie française. Et à chaque fois qu'on voit pointer le bout de la barbiche de Zola sur le thème « Je voudrais bien entrer à l'Académie », tout le monde se met à cogner sur Zola. Et donc, de la même façon que Mistral, en 1859, ça sert à cogner sur Baudelaire, Mistral, au cours des années suivantes, ça sert à taper sur le pornographe Zola et ses tombeaux d'immondices répandus dans notre littérature française qui que d'eau. Alors voilà, quoi. Donc c'est quand même une façon très particulière de voir Mistral. Et il peut y avoir aussi des visions extrêmement négatives et des articles extrêmement hostiles à Mistral et au Félibrige. Alors voilà par exemple ce que dit un critique du Figaro en 1864. Il faut bien l'avouer, il s'appelle Magnard. Bon. Il faut un grand critique de l'époque. Il faut bien l'avouer. On ne pense que dans les pays du Nord. Le midi se contente de peindre, ou plus exactement, d'enluminer les objets. Du sentiment, point. Une sensibilité toute climatérique. Les langues y sont tantôt, comme l'italien, un parlage de femmes, une conversation de caillettes. Tantôt, comme l'espagnol, un assemblage de mots retentissants, donquichotesques, tout à fait appropriés à de grands sentiments, qui sont à l'héroïsme ce que sont les géants aux grands hommes. Quant à la langue provençale, qui se donne aujourd'hui un mal infini pour prouver qu'elle existe, elle a eu, récemment, un poète qu'on a dit d'être de la force d'Homère. Que diable, messieurs ? Faites des vers en patois si vous avez la fibre du pays, mais si vous voulez être français, soyez-le pour de bon. La France de Molière, de La Fontaine, de Racine ne peut abdiquer ses droits, sa langue, son génie, sa sublime raison. Fils de Simon de Montfort à la rescousse et sus aux albigeois. Bon, voilà. Alors, un autre. Alors, le pire. Laurent Taillade, occitan d'origine, pyrénéen, qui a été un moment compagnon de route du Félibrige. On lui doit même quelques vers en gascon, pas très bon d'ailleurs, qui a fréquenté les Félibres de Paris en 1884, toujours cette année terrible, où il décrit Mistral et sa femme. Alors c'est une description, vous allez voir le ton tout de suite, hein, mais Mistral, la madame Mistral, arborant sur sa vaste poitrine une cigale d'or de la taille d'un rat de moyenne grosseur. Bon. Ça c'est pour madame Mistral. Après, alors tu parlais de Marieton, le gros Marieton, suant, soufflant, bon, voilà. Et donc ça, c'est en prologue d'un article qu'il écrit dans la revue culturelle Comédia, en 1914, et qui, pour saluer, si j'ose dire, la mort de Mistral. Et vous savez que la nécrologie, globalement, c'est quand même un exercice de respect. Alors, Laurent Taillade, le respect qui témoigne à Mistral, donc c'est la parole du renégat, en quelque sorte, hein, ça donne ça. La syntaxe et le vocabulaire de Mistral appartiennent l'un et l'autre à une langue morte. Ce n'est pas à cause de sa valeur de poète, ni même à cause de l'esprit réactionnaire dont il a toujours édifié les paroles académiques, ce n'est même pas à cause de son obstination à vivre que Mistral voit sa gloire passagère. Non, c'est parce qu'il a parlé patois, jargonné, fourni à ceux qui ne connaissent les ressources ni les règles du français, l'illusion qu'il existe quelque part un sous-dialecte idoine à mieux vêtir l'impropriété de leur discours. Quiconque baragouine a récompensé Mistral d'avoir baragouiné comme lui. Sa glorification d'un bout à l'autre de la France n'est que l'apothéose du patois. Nécrologie de Mistral. Alors, ça signifie que Mistral, on parle de Mistral à Paris. Et puis alors, pour en parler, on en parle quand même d'une drôle de façon, et pas nécessairement à juste titre. Et je vais suggérer, et j'y reviens pour finir en quelque sorte, Lamartine. Lamartine, c'est à la fois le bon et le truand dans cette histoire, et un peu la brute aussi. C'est celui, effectivement, qui lance Mistral. Une fois que, comme tu disais, hein, une fois que Lamartine a parlé, bon, respecte. Mais en même temps, regardez ce qu'il dit quand on gratte un peu. Pourquoi aucune des œuvres achevées, cependant, de nos poètes européens actuels, y compris, bien entendu, mes faibles essais ? Pourquoi ces œuvres du travail et de la méditation n'ont-elles pas pour moi autant de charme que cette œuvre spontanée d'un jeune laboureur de Provence ? Pourquoi, chez nous, et je comprends dans ce mot toutes les plus grands poètes métaphysiques, français, anglais ou allemands du siècle, Byron, Goethe, Klopstock, Schiller et leurs émules, pourquoi dans les œuvres de ces grands écrivains consommés, la sève est-elle moins limpide, le style moins naïf, les images moins primitives, les couleurs moins printanières, les clartés moins sereines, les impressions, enfin, qu'on reçoit à la lecture de leurs œuvres méditées, moins inattendues, moins fraîches, moins originales, moins personnelles que les impressions qui jaillissent des pages incultes de ces poètes déveillés de la Provence. Ah, c'est que nous sommes l'art et qu'ils sont la nature. C'est que nous sommes métaphysiciens et qu'ils sont sensitifs. C'est que notre poésie est retournée en dedans et que la leur est déployée en dehors. C'est que nous nous contemplons nous-mêmes et qu'ils ne contemplent que Dieu dans son œuvre. C'est que nous nous pensons entre des murs et qu'ils pensent dans la campagne. C'est que nous procédons de la lampe et qu'ils procèdent du soleil. Alors, ce qui est terrifiant dans ce texte, c'est que ça établit très très bien un plafond de verre extrêmement compact entre eux et nous. Il y a nous, les grands poètes métaphysiciens, machin. Alors oui, bon d'accord, on est artificiel, on est ici, on n'est pas en contact avec le grand tout, mais on est nous. Et puis il y a eux, les poètes incultes. Mistral, poète inculte. Eh oh, bac plus 3, Mistral quand même. Grec et latin à tous les étages. Mais Mistral, poète inculte, paysan, qui garde les chèvres. Et alors ça donne le couplet final. Quant à toi, ô poète de Mayan, inconnu il y a quelques jours, et aux autres, et peut-être inconnu à toi-même, rentre humble et oublié dans la maison de ta mère. Attelle les quatre taureaux blancs et ou tes simules luisantes à la charrue, comme tu faisais hier, Mistral, voilà, je m'en vais. Bêche avec ta houe le pied de tes oliviers. Rapporte pour les vers à soie, à leur réveil, les brassées de feuilles de tes mûriers. Lave tes moutons au printemps dans la durance ou dans la sorgue, qui passe toutes les deux à Mayan. Hein. Jette-la la plume et ne la reprends que l'hiver, à de rares intervalles de loisirs. T'es là pour bosser quand même. Attends. Pendant que la mireille, que le ciel te destine sans doute, étendra la nappe blanche et coupera les tranches du pain blond sur la table où tu as choqué ton verre avec Adolphe Dumas, ton voisin et ton précurseur. On ne fait pas deux chefs-d'œuvre dans une vie. Tu en as fait un. Rends grâce au ciel et ne reste pas parmi nous. Parmi nous, nous, voilà. Tu manquerais le chef-d'œuvre de ta vie, le bonheur dans la simplicité. Vivre de peu, ah, est-ce donc si peu que le nécessaire, la paix, la poésie et l'amour. Mais chez toi, Mayan, Bouches-du-Rhône, 700 km, et surtout tu viens pas. Alors, on peut discuter. De la part de Lamartine, ça correspond à quelque chose de très profond, qui correspond à son projet littéraire des dernières années. C'est-à-dire essayer de trouver une poésie populaire qui parle au peuple et qui parle du peuple. Et c'est ça qui l'a séduit, en dehors de la mélodie des vers de Mistral, c'est ça aussi qu'il a reconnu chez Mistral, quelqu'un qui essayait de faire ça, finalement, de faire une épopée rustique avec des personnages populaires. Et donc, il y a de la sincérité. Je ne mets pas en doute la sincérité d'Alphonse, hein. Mais en même temps, le naturel revient au galop, c'est M. Alphonse de Lamartine, collègue de M. Alfred de Vigny, de Musset, bon, enfin, c'est un autre monde. Et le fond du problème dans toute cette histoire, c'est que Mistral est à la fois reçu, accueilli, mais avec des grosses pincettes. Il est reçu tant qu'il peut servir. Et il servira après sa mort, puisque là, il ne peut plus rien dire. Et il servira notamment à Charles Maurras. Ce n'est pas un hasard si au moment du centenaire de sa naissance en 1930, l'essentiel de ce qui paraît sur Mistral paraît avec le tampon « Action française ». Ce qui, entre nous, oriente la perception de Mistral jusqu'à aujourd'hui dans un sens très précis. Ne parlez pas de Mistral à mes collègues historiens. Dans les manuels d'histoire du XIXe siècle où son nom apparaît en index, il apparaît toujours dans un contexte bien précis. La signature qu'il a donnée, très brièvement, et ensuite il a fait enlever, au manifeste de la Ligue de la Patrie française anti-Dreyfusard en 1899. Hein ? Mistral, Maurras, même combat, on a compris, c'est pas la peine de se fatiguer à lire. Et donc, du même coup, ça oriente quand même pas mal la lecture de Mistral. C'est donc une lecture souvent idéologique. Et ça, c'est vrai dès le départ. Et au-delà de cette manipulation idéologique de Mistral, il y a aussi un fait très simple que je viens d'évoquer, en faisant le contraste entre Frédéric Mistral sans particules et Alphonse de Lamartine et tous les autres. Ou Barbet d'Orlevilly, toi. C'est que Mistral, oui, il est bac plus 3, mais c'est jamais qu'un fils de paysan. Bon, de paysan moyen riche, comme on disait en Chine dans les années 60, d'accord, mais c'est un fils de paysan. Il n'a pas le capital culturel et le capital tout court qui lui permettrait d'avoir vraiment sa place dans ce petit monde sélect de la littérature française du temps. Hein. Liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, machin bidule. Tiens, non! La société française du XIXe siècle est encore une société d'ancien régime, avec des hiérarchies sociales extrêmement précises. Et Mistral, il n'est pas dans le bon tiroir. Et à partir de ce moment-là, ça justifie tout. Ça justifie à la fois la condescendance qu'on lui témoigne et en même temps la distance qu'on établit. Et dernière chose, Mistral, il n'écrit pas en français. Et ça, on ne lui envoie pas dire. Et puisqu'il n'écrit pas en français, il n'est pas lisible. Il y a un moment terrible. En 1995, Mistral produit le seul texte de théorie poétique qu'il ait jamais produit, alors que tout écrivain français digne de ce nom commence sa carrière par un manifeste poétique pour montrer qu'il va secouer le cocotier et faire tomber tous les vieux cons qui l'ont précédé. Bon, ça, c'est la littérature française. Mistral, il ne fait pas ça. À une exception près, quand il est en train d'écrire le poème du Rhône, Mistral explique dans la presse parisienne que la rime, ça va. Il a rimé toute sa vie. Maintenant, il veut expérimenter une nouvelle forme d'écriture poétique avec donc des laisses de poèmes, avec des vers qui ne riment pas, à rime féminine qui ne rime pas, à finale féminine qui ne rime pas. C'est intéressant comme idée. Ça pouvait ouvrir à un débat sur le vers libre qui commence à sortir à l'époque. Réponse. Il y a un type qui fait une enquête dans la presse parisienne. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de M. Frédéric Mistral, le poète bien connu ? Réponse de Sully Prudhomme, titulaire du premier prix Nobel de 1901, pour une raison très simple, c'est que c'était le doyen de l'Académie française, et les Suédois ne sont pas fatigués, ils ont demandé à l'Académie française ce qu'ils en pensaient. Et ils ont pris le plus ancien dans le grade le plus élevé, et c'est Sully Prudhomme qui avait une jolie barbe, et qui écrivait des poèmes. Bon. Réponse de Sully Prudhomme, je ne discute pas avec M. Mistral, puisqu'il n'écrit pas en français. Terminé, rideau, fini, bon, voilà. Alors donc, sa langue aussi ne facilite pas les choses, mais il ne renoncera jamais. Et du coup, on a affaire à une grande injustice. Et c'est pour ça que tous les portraits d'étrangers que tu as fait passer nous consolent. Mistral a peut-être été mieux compris hors de France qu'en France. Et il a été mieux compris hors de France parce qu'hors de France, on n'avait pas tous les préjugés sociaux et linguistiques. Et dans ce cas-là, et c'est là-dessus que je finis véritablement, l'injustice de ces regards parisiens sur Mireille et sur Mistral en général, c'est qu'ils passent complètement à côté de la réalité de l'œuvre, et c'est-à-dire de la construction d'une œuvre poétique qui est liée étroitement, mais ça c'est le boulot de Casanova, hein, et éventuellement de Jean-Claude Forêt ici présent. Mais en gros, Mistral, il écrit avec ses tripes, il écrit avec son vécu, il écrit avec ses propres fantasmes, que Charles Moron a très bien étudié, et Mistral est un extraordinaire faiseur de beauté mélodique. C'est quelqu'un qui joue très très bien avec les capacités de sa langue. Et ça, et c'est quelqu'un en même temps qui, à travers sa langue, touche à l'universel. Frédéric Jappe-Temple a fait le rapprochement entre le poème du Rhône et Walt Whitman. Il faudra qu'on en parle, parce que c'est intéressant, ça. Moi, j'associe volontiers Mireille avec un autre poète américain, qui est Edgar Poe. Et notamment un poème d'Edgar Poe que vous connaissez peut-être, qui est Annabel Lee, qui a été traduit par Mallarmé un peu plus tard, et que donc Mistral ne connaît pas quand il écrit Mireille. Et l'histoire d'Annabel Lee, qui se fonde sur l'autobiographie d'Edgar Poe, sur la mort précoce de sa femme, c'est Mireille, en gros. C'est-à-dire, j'étais un enfant, elle était un enfant, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes aimés, et notre amour était tellement pur qu'il a provoqué la jalousie des anges du ciel, qui ont donc envoyé une maladie à Annabel Lee et qui est morte. Et du coup, ses parents de haut lignage me l'ont arraché pour l'enfermer dans un sépulcre au bord de la mer. Et moi, je me ferai enterrer à ses côtés, sur la plage. And so, old when I tide, I lie down by the side of my beautiful Annabel Lee, my life and my bride, in a sepulchre there by the sea, in a tomb by the sounding sea. Je me fais enterrer dans sa tombe, à côté de sa tombe, sur les bords de la mer résonante. Et c'est extraordinaire de voir que Poe, qui ne connaît pas Mistral, qui meurt trop tôt pour connaître Mistral, a trouvé, finalement, dans son propre vécu, une fable sur la mort, sur l'amour, qui correspond extrêmement, d'assez près, me semble-t-il, à l'image que Mistral donne de sa Mireille. Et c'est assez fabuleux, finalement, de voir que Mistral, quelque part, a rencontré Poe, et apparemment donc Whitman et certainement d'autres, dans une autre dimension que la nôtre, finalement. La dimension où se retrouvent les grands poètes, ceux que l'on ne comprend pas forcément, mais qui, à un moment dans leur vie, ont été des créateurs de beauté, et Mistral a été ce créateur de beauté. Je vous remercie.
À causer la première partie de la contribution de Philippe Martel, universitaire de Pau Valéry à Montpellier, à propos de Frédéric Mistral. À quelle conférence fut être registrée dans l'encastre d'un colloque organisé par le Pen Club de Languedoc le 14 juin de 2014 à l'abbaye de Maguelone.